Je reprends là où j'étais resté avec la gnomée. Pour Aristote, la gnomée est une vertu, sous-jacente à la prudence. La prudence nous donne de faire les bons choix dans le particulier pour aller vers le bien ultime, de choisir les biens particuliers en harmonie avec ce bien ultime qu'est Dieu. Et l'agnomée, c'est une vertu de sagacité. Je ne sais pas, les étrangers auront peut-être du mal à comprendre ce mot, et peut-être même certains Français, vu le niveau du français des jeunes générations. Qu'est-ce que c'est que la sagacité ? Ceux qui ont lu des romans policiers savent qu'un détective qui a de la sagacité, il a du flair, il arrive à trouver. Et donc la sagacité, c'est savoir trouver le bien, les biens particuliers, les choix particuliers de la prudence dans des situations compliquées, intriquées. Qu'est-ce que ça... Alors, Maxime a utilisé, pas seulement Maxime, parce qu'il y a déjà de père antérieur à lui, ils ont fait passer la gnomède d'une vertu qui qualifie la prudence, l'exercice de la prudence, dans les cas particulièrement où c'est pas clair, ce qu'on veut pas choisir, pour dire... La gnomée, c'est l'état de la liberté créée, d'une liberté créée, d'une créature, d'une personne créée, qui doit chercher son bien dans ce monde avec beaucoup d'hésitation, de délibération compliquée, voyez, et qui donc va choisir dans un sens, dans un autre, qui en plus est marqué par les passions, par le péché originel, etc., un état instable de l'exercice de la volonté naturelle, du libre arbitre. Donc, Saint-Maxime voit dans le libre arbitre un élément naturel qu'il appelle auto-exousion, qu'est-ce que c'est ? Ça se traduit par l'autodétermination. La capacité d'autodétermination fait naturellement partie du libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre qui naît. Qui naît cette capacité de s'autodéterminer, sinon il n'y a plus de liberté. Et l'agnomée est. La tournure que donne une personne créée au libre arbitre dans tous les tâtonnements et les incertitudes de son choix. D'une part parce qu'elle ne voit pas clair et d'autre part parce qu'elle ne veut pas clair non plus. Elle a la concupiscence en elle qui la perturbe. Donc, l'agnomée, c'est l'exercice du libre arbitre par une personne créée. La Vierge Marie avait une gnomée, elle n'avait pas la concupiscence. Donc, sa gnomée était certainement beaucoup plus stabilisée que la nôtre. N'empêche que, on la voit, comment cela se fera-t-il ? Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Etc. On voit bien que la Vierge Marie tâtonne, non pas parce qu'en elle il y a le trouble de la concupiscence, mais parce que les choses sont objectivement complexes. Pour Saint-Maxime, Jésus n'a pas de gnomée, il n'a pas un exercice gnomique, il n'a pas une volonté délibérative qui est là à se dire « Ah, il faudrait faire ça, mais non, on va faire comme ça, etc. » Non, il fait des choix. Quand Jésus décide d'aller à Jérusalem, il quitte Nazareth, donc c'est un choix, c'est un acte de l'auto-exclusion, de l'autodétermination. Jésus fait des choix humains. Et le choix suprême sera de donner sa vie pour nous. Mais il le fait non pas avec tout ce tâtonnement de la gnomée, mais par le mode d'exercice filial qui est le sien. Et donc avec une sorte de, à la fois avec une volonté humaine totalement fixée dans le bien, et avec une intelligence, ça sera le pendant, connaît le bien ultime. Donc ça suppose en fait une vision béatifique à la clé. Parce que la raison pour laquelle nous tâtonnons, c'est que nous ne connaissons pas encore, tant que nous ne verrons pas Dieu, nous ne connaissons pas le bien ultime. Nous le connaissons comme une sorte d'horizon très lointain, mais nous n'en avons pas l'expérience. Tandis que Jésus nous dit qu'il a vu le Père. Lui. Du coup, il y a dans le Christ, effectivement, quelque chose qui n'est pas gnomique, qui n'est pas de l'ordre de la délibération hésitante. Non seulement parce qu'il n'a pas les contradictions internes de la concupiscence, mais ça la Vierge Marie ne l'avait pas, mais parce que même dans les choix qu'il a à faire, il a comme une sorte de boussole absolument infaillible, qui est son obéissance au Père, qui est son obéissance à Dieu, ou son vouloir humain est au service du vouloir divin, par le moyen de son habitus filial, du mode filial de l'exercice de sa volonté humaine. Car le tropos, au plan entitatif, c'est le mode d'exister des personnes, le mode d'exister personnel. Mais au plan opératif, c'est le mode d'exercer. Mode d'exister, mode d'exercer. L'intelligence, mode d'exister, la volonté. Mode d'exister, d'exercer personnel. Eh bien, la manière dont le Fils de Dieu fait homme exerce sa volonté humaine, c'est ce qui tient la place de l'agnomé. Il n'est pas dans ce tâtonnement délibératif. C'est sa filialité, c'est son obéissance au Père qui est comme une sorte de balise, de boussole qui conduit absolument sa vie. Nous étions restés, je crois, au numéro 7. Hein, nous avions lu le numéro 7. Donc, nous passons à la page 2. Numéro 8. Puisque par la première transgression, celle d'Adam, est survenu le péché, par le péché la passibilité de la naissance de la nature humaine, et que la première transgression s'exprime toujours par le péché dans la passibilité de la naissance humaine, il n'y avait plus d'espoir, la nature humaine étant indissolublement en dépendance du lien mauvais quant à son libre arbitre. Et que si sa maxime enseigne que le péché originel se transmet bien par la propagation, et pas seulement par imitation, c'est les formules du Concile de Trente. Par propagation et pas d'abord par imitation. Il y a une part d'imitation aussi, mais le péché originel se transmet déjà par une inclination mauvaise que nous contractons par notre venue à l'être, par la procréation. Numéro 9. Depuis le péché originel, l'homme est soumis au péché selon son libre arbitre, du fait du mal de son élection. Maxime dit, l'élection d'Adam s'étant corrompue en premier, elle corrompit avec elle la nature humaine qui perdit la grâce de l'impassibilité et devint péché. Ce péché originel d'Adam, Adam l'a transmis par la procréation à toute la nature humaine, sous forme non seulement de la passibilité physique, mais aussi de ce que saint Maxime appelle la tournure de notre élection, notre péché. Donc, une gnomée non seulement hésitante, car Adam avait une gnomée, la Vierge Marie a une gnomée. La gnomée, il ne faut pas confondre la gnomée et la concupiscence. Hein. La gnomée, c'est le propre d'une volonté créée, d'une liberté créée, qui n'a pas encore, ne s'est pas encore fixé dans le bien ultime. Au ciel, on n'aura plus de gnomé. En ce sens que, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas on ne fera pas des actes libres. Quand, quand la petite Thérèse dit « je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre », montre bien qu'elle aura des initiatives, hein, mais elle a atteint la fin ultime et elle ne peut pas la perdre. Elle est fixée sur son bien ultime. Quand on n'est pas encore fixé, alors il y a toute une part d'hésitation. C'est comme ça qu'Adam et Ève ont pu pécher. C'est comme même l'ange, dans ce premier instant de sa création, n'est pas fixé, ne voit pas Dieu. Tant qu'on ne voit pas Dieu, on a une volonté gnomique. Et je pense que le fait que le Christ n'ait pas de volonté gnomique signe chez saint Maxime le fait qu'il a la vision béatifique. Saint Maxime ne s'est pas posé explicitement, du moins je ne crois pas, je n'ai pas fouillé absolument tout saint Maxime sur la question de l'intelligence. Il ne se pose pas la question, et la question plus moderne de la conscience et de la conscience que Jésus avait d'être Dieu, etc. Mais en fait, ça découle du fait qu'il refuse que Jésus ait une volonté gnomique. Et Balthazar, qui ne veut pas donner au Christ, reconnaître au Christ la vision béatifique, en conséquence, interprète complètement de travers saint Maxime sur un point quand il dit que Jésus, à Gethsémani, a oscillé entre l'obéissance et la non-obéissance. C'est exactement le contraire de ce que dit saint Maxime. Et vraiment, là, il lui fait dire le contraire. Parce que Balthazar a trop tendance à voir dans le Christ le modèle de la théodramatique. Or, la théodramatique, elle est chez nous. C'est une très grande chose, la théodramatique. C'est tous les exercices spirituels de Saint Ignace qui sont là-dedans. Hein. Elle est vraie pour les sauvés, mais pas pour le sauveur. Jésus n'est pas lui-même dans la théodramatique, c'est-à-dire dans un rapport de combat de l'ange avec Dieu. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est absolument pas comme cela que la doctrine catholique l'a compris. Oui.
Comment saint Maxime interprète l'épisode de Gethsémani de...
Alors, vous avez tous les textes, je vous renvoie alors. Pour les textes, vous avez l'étude du Père Lettel et les textes intégraux qui ont été publiés parallèlement. Donc, vous avez l'étude du Père Lettel, vous savez, la théologie de l'agonie du Christ chez Maxime le Confesseur. C'était son mémoire de maîtrise. Et vous avez les textes de Maxime intégraux dans un volume de la collection Les Pères dans la foi, qui s'appelle L'agonie, je crois, du Christ chez saint Maxime, comme ça. Et pour saint Maxime, ce qui est clair, c'est que non pas ma volonté, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, exprime l'angoisse du Christ face à la mort. Mais prise déjà dans un mouvement d'obéissance, puisque la phrase continue, ce n'est pas une autre phrase, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Donc il assume toute cette angoisse devant la mort pour en faire le lieu même de son obéissance au Père pour notre salut. X. Le Seigneur a assumé la loi de la nature humaine, mais non mu quant à la volonté par la gnomée, par la délibération gnomique. C'est-à-dire, il a assumé la volonté humaine, une volonté comme la nôtre, mais, voyez, c'est toujours le problème. En Jésus, tout ce qui est naturel est comme le nôtre. Il a un corps comme nous, il a une âme comme nous, il a une intelligence comme nous, il a une volonté comme nous. Mais ça, nous sommes au niveau du logos, du principe naturel. Mais le tropos, la modalité, c'est celle du Fils de Dieu. Alors, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait la même chose d'exister comme homme en tant que Jean-Miguel, par exemple, et en tant que Fils éternel. Donc, attention, parce que nous ne savons pas, quand nous parlons de, nous disons que le Fils de Dieu était comme nous, quand le Christ était comme nous, est-ce que nous parlons au niveau de la nature ou est-ce qu'on parle au niveau du mode d'exister ou du mode d'exercer les puissances naturelles? Car si nous sommes du côté de la modalité personnelle, non, elle n'était pas comme nous. Bien sûr que non. Il suffit d'ouvrir l'évangile. non seulement parce qu'il ne péchait pas, mais parce qu'il était dans une sorte d'immédiateté, de transparence avec le Père, parce qu'il avait des pouvoirs sur la nature, qu'il connaissait le secret des cœurs, qu'il s'est transfiguré, qu'il a marché sur la mer. Enfin, je veux dire, on commence et on n'en finit pas.
Oui. Alors, puisque le Christ a tout ça, est-ce qu'il était vraiment libre de ne pas choisir le bien? Même à Gethsémani, ça m'interpelle parce que...
Parce que la liberté n'est pas d'abord, ne se définit pas par rapport au choix du mal. La liberté de choisir le mal est un état très imparfait de la liberté, qui pour quelqu'un qui doit aller vers mériter le salut, il doit passer par là. C'est inévitable. Ontologiquement, on ne peut pas éviter à une liberté créée de tout ce tâtonnement, de l'agnomètre, etc. C'est par exemple au ciel, je vous renvoie de nouveau, au ciel, les bienheureux ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas pécher parce qu'ils voient le bien. Et Jésus voyait le bien. Et donc ils ne pouvaient pas pécher, mais ils sont libres. Le Christ a posé des quantités d'actes de choix, entre autres de s'offrir. Mais ce n'est pas parce qu'ils pouvaient désobéir, vous voyez, on est dans un état de la liberté beaucoup plus parfait. Mais c'est de la liberté. La liberté est dans le vouloir le bien. C'est pas dans le. Vous voyez, nous sommes marqués par le nominalisme dans lequel la liberté est d'abord une liberté d'indifférence. C'est la liberté de ou bien ou bien. Et nous sommes tellement marqués culturellement par cela que nous ne comprenons pas que la liberté, c'est de grandir dans le bien. Vous voyez, la Vierge Marie, elle a grandi sans cesse, elle n'a jamais choisi le mal. Elle le pouvait ontologiquement. Elle aurait pu choisir le mal. Mais sa liberté, c'est de grandir sans cesse de bien en bien. D'un bien inférieur à un bien supérieur. Ordonner un bien inférieur à un bien supérieur, c'est le propre de la liberté.
Justement, le Christ, si sa volonté le pousse naturellement vers le bien, son intelligence bénéficie de la vision béatifique et donc le bien, il le voit assez rapidement. Dans ce cas-là, sa liberté, même ontologiquement,
Prenez le cas, vous le voyez par exemple dans le Gethsémani. C'est pas très amusant de voir boire la coupe. C'est quand même un acte libre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, vous le voyez dans quelque chose qui n'était pas évident. Mais c'est pas parce qu'il était tenté de désobéir au Père, comme pense Balthazar. C'est parce que c'était en soi quelque chose de très coûteux, quand même. Et qu'il l'a fait par amour. Si ce n'est pas un acte libre. Vous voyez, l'acte libre, il a sa qualité de liberté dans le choix du bien et non pas dans le fait que cela se fasse parce qu'il y a à côté le mal. Ça, c'est le choix du mal, c'est un suicide de la liberté, d'une certaine manière, de choisir le mal. Vous voyez, c'est un déraillage, c'est un état débile de la liberté qui, au début, mais quand vous voyez un saint, vous voyez qu'il va de plus en plus dans une connaturalité avec Dieu qui fait que spontanément il choisit le bien. Au début, c'est très conflictuel, c'est difficile, il y a des chutes, des relèvements, et plus le saint avance, plus il est docile à l'Esprit Saint. Mais est-ce qu'il est moins libre? Pas du tout. Il est plus libre. Mais ça, c'est terrible, parce que là, nous sommes marqués par la modernité, vraiment, dans ce qu'elle a de plus mauvais, qui est cette liberté d'indifférence, qui ont été, dès le XIVe siècle, les nominalistes ont fait le critère même de la liberté. La liberté devient plus libre quand elle devient amour. Quand quand elle s'épanouit dans le bien, quand le choix se fait dans l'ordre du bien, quand elle grandit dans l'ordre du bien. Elle n'est pas d'abord un choix entre le mal et le bien. La liberté est toujours un choix entre le bien et le bien. Le problème, et c'est là qu'intervient le mal, c'est que quand je subordonne un bien supérieur à un bien inférieur, là j'ouvre cet abîme néantisant du mal, qui n'existe pas. Le mal n'existe pas, n'a pas d'exister. Le mal est une sorte d'abîme qui couvre la liberté créée. Quand je désordonne un bien qui devrait grandir vers un bien plus grand, et qui au contraire, par un mensonge où je me mens à moi-même, hein, ce que nous faisons dans chacun de nos péchés, j'inverse le rapport et je dis que le bien qui était inférieur est supérieur. Et je le choisis comme supérieur. Et à ce moment-là, ça, c'est un mal. Mais d'une certaine manière, je ne choisis jamais le mal pour le mal. Passez en vue tous vos péchés, vous verrez que c'est toujours le choix d'un bien. Je suis la volonté et comment dirais-je, orientée vers le bien comme le papillon de nuit par la lumière. Hein. Vous ne pouvez pas... Seulement, après, dans les biens intermédiaires, c'est là que vous pouvez effectivement perturber ce chemin de croissance vers le bien et du coup en faire un cheminement de décroissance et dans lequel vous devenez au contraire de plus en plus réfractaire au bien. Mais c'est vous créez l'abîme du néant par vous-même. Vous êtes cause première du mal moral. Dieu n'est pas cause du mal moral, en aucune manière. Et ça, je pense que pour Saint Maxime, c'était quelque chose qui était très clair. Je n'ai pas étudié systématiquement ce qui m'a toujours fasciné chez Saint Maxime, c'est que quand j'ai creusé quelque chose chez lui, d'assez particulier, finalement j'ai trouvé la doctrine, la grande doctrine qui est devenue ensuite... J'ai pas envie de dire de Saint Thomas, parce que ce n'est pas les aspects de Saint Thomas qui lui sont particuliers, c'est de la doctrine commune, qui est celle des grands docteurs, celle qu'enseigne l'Église, celle que vous trouvez dans le catéchisme, etc. C'est pas du thomisme au sens étroit, même si effectivement Saint Maxime a une sensibilité métaphysique qui est très proche, avec néanmoins vraiment quelque chose qui lui est très original, c'est que là où Saint Thomas va voir plus le rapport de nature à nature, nature humaine à nature divine dans le Christ, il va dire la volonté humaine du Christ est instrumentale par rapport à la volonté divine, Saint Maxime va dire la volonté humaine du Christ est en hypostasie dans la personne du Fils. Et donc elle est filialisée. Donc il va regarder la même chose, mais davantage en mettant l'accent sur la personne. Mais sans ignorer la dimension des natures, mais en voyant le tropos. C'est par le tropos. Et du coup, on a une sorte de version plus personnaliste d'une certaine manière chez Maxime que chez Thomas. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, vous comprenez, parce que je voyais bien que c'était un des points que l'on souvent reproche à Saint Thomas, d'être resté plus attentif à l'aspect de la nature qu'à l'aspect de la personne. Et incontestablement, chez Saint Maxime, à cause de cette volonté d'articuler les personnes trinitaires avec l'hypostase d'union, etc., et les conséquences pour la volonté, pour la communication de la grâce, etc., il y a une sorte d'accent plus fort, mais dans un schéma qui est absolument le même. Je vois difficilement comment il pourrait être autre. C'est là où je me dis, quand je lis certaines pages de Balthazar, je dis certaines, car toute la partie théodramatique de l'existence chrétienne me semble une merveille chez Balthazar, et la partie nuptiale, etc. Mais dans les parties sur la christologie ou sur la Trinité qui me font difficulté, je me dis, mais pourquoi donc ne se soumet-il pas davantage à ce qu'enseigne l'Église ? Lui qui, par ailleurs, souvent a reproché beaucoup aux théologiens contemporains, comme Ranner, etc., de leurs écarts. Mais parfois, quand à son tour, Hein, l'Église enseigne que la volonté essentielle de Dieu est immuable, que Dieu est inaltérable et immobile, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées, qui sont dans les conciles, etc. On peut pas, un théologien ne peut pas en prendre et en laisser là-dedans. Ou alors, c'est qu'il parle un peu de manière métaphorique. Mais c'est embêtant quand on est dans... Parce qu'en même temps, parfois, il est très spéculatif. Donc, on n'a pas l'impression qu'on est dans la métaphore, là. Bien sûr, quand on parle, comme le poème sur le conseil divin de Saint Jean de la Croix, bon, c'est clair qu'on est dans quelque chose de métaphorique. La métaphore a sa place, c'est-à-dire en théologie spirituelle, parce qu'elle suggère des choses très, très profondes. Bon, revenons... Je crois que nous étions au 10. Avions-nous lu le 10? Non. Le Seigneur a assumé la loi de la nature humaine, mais non mue quant à la volonté par la délibération, par la gnomée. En assumant la passibilité naturelle, il vise à redresser l'altération mauvaise du libre arbitre humain introduite par le péché originel. Voilà ce que dit Maxime, rectifiant cette altération et corruption réciproque de la nature humaine, notre Seigneur a pris la nature humaine dans son intégralité, ayant dans cette nature assumé la passibilité, mais ordonnée par l'incorruptibilité de l'élection. Il est devenu pour nous péché par nature du fait de la passibilité, ne connaissant pourtant pas le péché du libre arbitre, en raison de l'immutabilité de son élection, redressant la passibilité de la nature par l'incorruptibilité de l'élection. Et donc, la passibilité de la nature va être le moyen dans lequel va s'exercer l'immutabilité de l'élection. Et ça, le moment suprême, c'est Gethsémani. Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, la coupe de la passibilité, mais non pas ma volonté, mais la tienne. 12. Si c'est en voulant qu'Adam prêta l'oreille au tentateur, en voulant qu'il considérât et après avoir voulu qu'il mangeât, alors c'est la volonté qui en nous est d'abord affectée d'altération. Exactement ce que dit aussi saint Thomas, le péché a son siège dans la volonté. Or, si c'est la volonté qui en nous est d'abord affectée d'altération, et si cette volonté, selon les monothélites, le Verbe en se faisant homme ne l'a pas assumée avec la nature, alors je ne suis pas devenu moi sans péché, alors je n'ai pas été sauvé, puisque ce qui n'est pas assumé n'est pas restaurer. Vous voyez, ici nous avons la citation de Grégoire de Nazianze. À la vie spirituelle numéro 13 revient, dit Maxime, le mouvement autodéterminé, le mouvement de l'auto-exhaustion. Si donc, selon la nature, revient aux êtres spirituels le mouvement autodéterminé, tout être spirituel est aussi par nature doué de volonté. Ce n'est pas seulement une volonté de nature, un élan, un appétit du bien, c'est aussi une volonté de raison. Ça fait partie de la nature humaine. Nous sommes des êtres rationnels et donc nous avons une capacité de nous autodéterminer en vue du bien. Mais après, la modalité de cette autodétermination, ça varie d'une personne à l'autre. C'est la signature de la destinée personnelle qu'elle choisit pour elle-même. 14. Le grand Moïse, dans la création de l'homme, présente Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Si l'homme est à l'image de la nature divine, Si la nature divine est douée d'autodétermination, l'image aussi en conséquence, puisqu'elle conserve la ressemblance avec l'archétype, est par nature douée d'autodétermination. Dieu a un libre arbitre, il choisit. Il a choisi un but divin, il aurait pu choisir de ne pas nous créer. Voyez que là vous voyez que ce n'est pas entre un bien et un mal. Ne pas nous créer n'aurait pas été un mal. Pour nous, ça aurait été un bien moindre, pour nous, mais comme nous n'existions pas. Hein? Vous voyez, là, vous avez un acte totalement contingent, totalement libre de le libre arbitre, qui n'est pas un choix entre un bien et un mal. Si l'archétype par nature, à savoir Dieu le Verbe, est aussi devenu image par nature, homme, c'est donc selon ces deux natures que le même Christ était doué par nature de volonté. Il a en effet montré auparavant, à partir des pères, que l'autodétermination naturelle est la volonté. Et là, il va en venir à la distinction du logos et du tropos, du principe naturel et du mode déterminé du vouloir. Vous voyez, le numéro 16 va apporter beaucoup de précision. Le fait de vouloir et le mode déterminé de vouloir ne sont pas identiques, tout comme ne le sont pas non plus le fait de voir et le mode déterminé de voir. C'est la différence entre une spécificité et une modalité personnelle. C'est très important, là je vais dégager quelque chose de beaucoup plus général. Le danger de la philosophie classique, la philosophie antique et médiévale, c'est d'être une philosophie de la spécification. Et ne pas considérer le mode de l'exercice, qui est forcément subjectif. C'est là que, incontestablement, il faut développer, à partir... Saint Thomas connaît très bien cette distinction entre spécification et exercice. Il la développe admirablement dans la question 6 du Démalo, je l'ai utilisé d'ailleurs plus loin dans mon livre. Mais c'est vrai que très souvent, c'est peu mis en relief. La modernité, elle est fascinée par l'exercice, au point qu'elle ne considère pratiquement plus la spécification. Vous voyez, quand je choisis, je suis un homme. Et comme homme, j'ai une volonté qui est spécifiée par un objet qui est le bien. Et ultimement, le bien ultime, justement, Dieu. Et ça, c'est spécifique. Et je ne peux rien y changer à ce niveau-là. Je suis finalisé par ça. Mais la manière dont j'exerce cet acte de vouloir, et qui donc va me rapprocher ou au contraire m'éloigner de la fin, ça, c'est une modalité de l'exercice. Et c'est personnel. Vous comprenez que pour la vie chrétienne, c'est quand même pas rien, cette modalité de l'exercice, parce que quand même, ça peut me conduire au ciel ou en enfer. C'est pas rien. Donc, il est très important que la philosophie réaliste de la volonté ne se limite pas, et est aussi de l'intelligence d'ailleurs, ne se limite pas mais surtout de la volonté, parce que tout le domaine de l'exercice dépend de la volonté. Même l'intelligence. Et si vous ne voulez pas étudier, si vous ne voulez pas faire acte d'intelligence, vous ne faites pas. Tout l'exercice des facultés dépend toujours de la volonté. Il y a un primat dans l'exercice de la volonté sur l'intelligence. Et il y a un primat de l'intelligence sur la volonté dans le domaine des spécifications. Parce que comment savez-vous que quelque chose est bon, sinon que parce que l'intelligence vous le montre? Donc, voyez l'involution réciproque. Là, c'est du saint Thomas, hein, ce que je dis. Mais voyez que ça recoupe aussi ce que dit Maxime pour le mode de l'exercice. Et donc, si nous voulons qu'une philosophie chrétienne ne soit pas une philosophie de cyclope, qu'est-ce que c'est une philosophie de cyclope? Une philosophie qui ne voit que par un œil. Il faut avoir les deux yeux, celui qui regarde la spécification et celui qui regarde l'exercice. Et à ce moment-là, nous voyons le réel dans son relief. Quand vous cachez un œil, vous ne voyez pas le relief, vous ne voyez pas la profondeur de champ. Vous voyez quelque chose qui est absolument vrai, mais sans profondeur de champ. Et donc, une philosophie chrétienne qui n'est qu'une philosophie de la spécification va tomber dans un essentialisme, et une philosophie chrétienne qui n'est qu'une philosophie de l'exercice va tomber dans le subjectivisme. Après, entre ces deux-là, vous avez beaucoup le cocktail peut être un peu différent suivant les uns ou les autres, mais il faut tenir les deux. Il faut tenir les deux. Et c'est très important sur des questions de morale. Vous dites la loi naturelle. Nous sommes en pleine dans la spécification, dans la finalité objective des choses. Et oui, mais c'est qu'après, il faut arriver à faire comprendre aux gens que c'est un choix de leur volonté qui peut les conduire vers le bonheur, etc. Là, vous entrez dans tout le domaine de l'exercice. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui le pape François ? Ne nous contentons pas de donner une sorte de table de principes, mais aidons les gens, avec la grâce du Christ, à s'exercer. Les jésuites sont des maîtres du domaine de l'exercice. Et c'est pour ça que leur philosophie et leur théologie est toujours très centrée sur l'exercice. Alors ça énerve les dominicains qui, eux, sont beaucoup plus du côté de la spécification. Mais enfin, si on arrivait quand même à conjoindre plutôt qu'opposer. Il faut les principes, mais il faut ensuite, au plan pastoral, qu'est-ce que vous allez faire comme prêtre? Rappelez simplement les principes, ils les savent, comme dit le pape. Il dit, mais je sais, pour l'homosexualité, ça c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est connu, ça a été dit, redit, etc. Mais encore faut-il aider, faire un chemin, ce que l'Église appelle le principe de gradualité. Comment faire que les gens entrent dans un cheminement de choix où ils quittent des choses qui sont moralement mauvaises? Et c'est pas parce qu'on va les matraquer avec des principes qu'on va les faire changer. Au contraire, ça les durcit. Ça les endurcit, ça les rend encore plus enragés. Alors si ce qu'on aime, c'est une guerre civile, très bien. Si on a de la compassion pour son prochain, on essaye plutôt de voir comment l'aider à sortir de là. Et pas comment l'enrager. Vous voyez, et ça ne met absolument pas en cause les principes. Ce n'est pas du relativisme. Il peut y avoir une considération d'exercice qui finit par perdre la boussole par rapport au principe. À ce moment-là, la loi de gradualité devient la gradualité de la loi, ce qui est tout à fait faux à ce moment-là. Comme si les principes s'appliquaient comme ça, un petit peu à chacun, à sa manière. La gradualité de la loi, la loi de gradualité, c'est une gradualité de l'exercice. Parfois, on a une conversion totale à la Saint-Paul, etc., miraculeuse, la personne change complètement, elle embrasse une vie totalement chrétienne, il devient moine, il fait tout ce que vous voulez. Mais parfois, non. Parfois, ça dure toute une vie. La justification peut être très longue. Et il nous faut accompagner les gens, nous, pasteurs, sur ce chemin, sans les désespérer complètement. En les aidant à croire que progressivement, par des choix encore partiels, ils peuvent déjà commencer à mettre un peu leur vie dans l'axe. Parce que Dieu, il nous appelle, vous voyez, quand Dieu appelle, on peut dire qu'au début de la vie chrétienne, on pourrait dire, voilà l'homme, puis il a une finalité, et puis là, il y a Dieu. Mais après, on commence à agir, justement, selon la gnomée, et alors ça fait quelque chose comme ça. Alors, la tentation, c'est de dire à quelqu'un qui est là, tu te remets immédiatement dans l'axe, et là on voit. Mais non, c'est que Dieu l'appelle à partir de là. Et s'il est là, il l'appelle à partir de là. La balise, elle est toujours là, elle n'a pas bougé, elle est la même. Mais elle me saisit dans un exercice et dans un état existentiel. Sinon, ça devient de la géométrie, de la géométrie morale. C'est-à-dire, allez, vous remettez des équerres, et puis voilà. Il y a des gens qui aiment ça, ils sont un peu psychorigides, mais la plupart des gens, ben, ils ne font pas comme ça. Et on risque. Et le pape, ben, il est très jésuite. Moi, j'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas jésuite et que je suis dominicain. Mais je me dis que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné un pape jésuite. C'est-à-dire qu'il veut le salut du grand nombre. Il n'est pas janséniste. Il ne se contente pas du salut de quelques élus dans quelques chapelles particulièrement chaudes et pures. Il veut le salut d'une multitude qui est comme ça, dans ses tâtonnements, etc., et auquel il faut donner une parole de salut. Et ce n'est pas contradictoire avec les papes antérieurs qui ont eu comme mission de remettre les fondamentaux, les principes de nouveau en place. Mais peut-être que justement grâce à ça, parce qu'ils ont été quand même bien remis en place, etc., il y a à développer une dimension concernant l'exercice. Pardon, j'extrapole, mais ça me tient très à cœur actuellement, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont troublés par le pape François. Ils sont troublés, parce qu'ils pensent qu'il abandonne les principes. Il n'abandonne aucun principe, le pape. Il apporte quelque chose de complémentaire. Jésus, quand il s'invite chez Zachée, il ne lui dit pas d'abord, mais toi, d'équerre, et puis ensuite on parlera. Il s'invite, ou chez Matthieu, il s'invite. Il apporte un salut. Alors, comme c'est le Christ, ben, le salut, là, il est assez radical. Hein? Mais quand le Christ n'est pas visible, que c'est à travers nous, parfois, ça prend plus de temps. Et oui, le père de la parabole, il allait tous les jours, là, sur la route, attendre son fils. C'est aussi, ça dit quelque chose aussi de Dieu. Alors, numéro 16. Jusqu'à quand avons-nous, Père Gilles ? Une minute ? Bon, alors on va lire quand même le 16 et puis demain on termine. Le fait de vouloir, ça c'est le principe de la volonté. Et le mode déterminé de vouloir, ça c'est la modalité d'exercice personnel, ne sont pas identiques. Tout comme ne le sont pas non plus le fait de voir et le mode déterminé de voir. Nous voyons tous, sauf ceux qui sont aveugles, mais suivant que je vois, prenez un cas d'un accident, suivant que vous êtes à un endroit ou à un autre, vous voyez un angle, un point de vue. Le point de vue de la vision, c'est quand même important. C'est la place du sujet. Il exerce la même capacité spécifique de voir, mais c'est un sujet qui voit, un sujet qui exerce, il est circonstancié, il est quelque part. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Vous voyez bien, nous avons quatre évangiles, parce que nous avons quatre points de vue. Il y a une théologie de Jean, une théologie de Luc, etc. C'est quoi ? C'est la manière dont il voit le Christ à travers tous les témoignages dont il dispose, etc. Mais il y a quand même un certain point de vue. Alors le point de vue ne fabrique pas le témoignage. Mais vous voyez, le témoignage devant une cour de justice est modalisé par le point de vue, soit subjectif, soit même objectif, parce qu'il se trouvait à tel endroit ou à telle heure, etc. Et chacun a vu quelque chose de la réalité. C'est bien la réalité spécifique, mais il l'a vu à partir d'une situation du sujet. Et là, nous sommes dans l'exercice. Bon, on prendra ça demain.